Attacha Beausoleil, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes orthophoniste, également propriétaire de la clinique Beausoleil Orthophonie, chargée de cours à l'Université de Montréal et à l'Université Laval. Le bégaiement, c'est assez présent, et ce, dans toutes les cultures, dans toutes les couches de la société, mais ça demeure assez difficile à comprendre.
Bien, en fait, c'est un trouble qui est d'origine neuromusculaire, donc ça n'arrive pas de nulle part. On sait que il y a une certaine transmission là qui se fait de façon héréditaire. Et comme vous disiez, il y en a partout, il y en a dans toutes les cultures. Il y a environ 5% de la population qui va bégayer à un moment ou un autre de sa vie. Donc, probablement que vos auditeurs ont quelqu'un autour d'eux qui bégaye. C'est quand même assez présent.
Je le disais tout à l'heure, il y a des hésitations qui sont normales dans le développement de l'enfant. Là, entre 2 et 5 ans, l'enfant apprend à parler. Qu'est-ce qui est normal comme hésitation?
En fait, à cet âge-là, il y a beaucoup d'hésitations parce qu'on est en train de développer le langage. Donc, quand on entend des répétitions de bouts de phrases, quand un enfant se reprend, révise sa phrase, ça, c'est tout à fait normal. Donc, il y a des hésitations qui vont être plus typiques du bégaiement, mais ces petites répétitions-là, habituellement, là, c'est quelque chose d'assez commun.
Quelles sont les causes du bégaiement chez l'enfant?
Bien, chez l'enfant et dans la population en général, là, comme je disais tantôt, c'est neurophysiologique. Donc, c'est au niveau du cerveau. Quand on étudie le bégaiement, on voit qu'il y a des différences au niveau du cerveau entre les personnes qui bégaient et qui ne bégaient pas, à la fois au niveau anatomique et au niveau du fonctionnement. Et de plus en plus, on sait aussi qu'il y a des facteurs héréditaires. Hein, dans 30 à 60 % des cas, ça se transmet dans la famille. Donc, c'est qu'on connaît là, au niveau de l'origine, mais la cause exacte n'est pas encore connue. Il y a beaucoup d'études en cours.
Facteur héréditaire, est-ce que c'est parce que, Natacha, l'enfant apprend en écoutant ses parents parler?
Non, ce n'est pas du tout de limitation. C'est vraiment la fragilité qui va être transmise. Donc, quand un parent bégaye, il y a plus de chances d'avoir un enfant qui va bégayer qu'un parent qui ne bégayerait pas.
Bon, ça se développe à quel moment, le bégaiement chez l'enfant? Est-ce que c'est dès l'apprentissage de la parole ou ça peut arriver plus tard?
Bien, en fait, la majorité, la très grande majorité des cas, ça va être entre 2 et 4 ans que ça va apparaître. Donc, il y en a que c'est dès qu'ils commencent à parler, il y en a que ça va être un petit peu plus tard, là, quand ils vont avoir plus de mots, plus de phrases. L'âge moyen, c'est 2,8 ans.
Oh, c'est assez précis, ça.
On a des études qui sont faites à ce sujet-là. Là, on a quand même beaucoup de détails. Et je préciserai aussi que c'est très, très rare qu'il y a des cas qui apparaissent passé 12 ans.
OK. Est-ce que le bégaiement, Natacha, ça peut arriver suite à un traumatisme? L'enfant vit un grand stress, divorce des parents, déménagement, et là, ce trouble du langage s'inscrit dans son cheminement.
En fait, les études actuelles nous montrent que non, pas vraiment. Les causes psychologiques, ce serait extrêmement rare. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aurait pas, mais ce serait très, très rare. Il faudrait qu'il y ait déjà une fragilité qui soit présente chez l'enfant. Mais ce que vous décriviez, ce serait des agents déclencheurs. Donc, le fait d'avoir une situation particulière qui surviendrait fait en sorte que l'enfant a moins de facilité à maîtriser sa parole dans ce contexte-là, mais ce ne serait pas la cause du bégaiement.
Je m'adresse bien sûr aux parents qui nous écoutent. Quels sont les signaux à identifier lorsque l'on a des inquiétudes, à savoir si notre enfant a des soucis de bégaiement ou pas?
En fait, ça va être, tantôt on parlait du type d'accrochage qui va être normal, il y en a qui sont plus typiques du bégaiement. Habituellement, hein, quand on commence à entendre des répétitions de sons ou de parties de mots, donc le mot n'est pas répété au complet, c'est seulement une partie, ça c'est moins typique de la parole normale. La présence de blocage aussi, donc de sons qui ne sortent pas immédiatement ou de sons qui vont être allongés par rapport à ce qu'on entend habituellement, ça habituellement, ça va être plus des indices de bégaiement. Ça ne veut pas dire que ça va être un bégaiement nécessairement persistant, mais c'est moins typique de la parole normale.
Est-ce qu'il peut y avoir, Natacha, des indices corporels? J'entends une respiration qui serait bloquée ou des tics encore?
Bien, en fait, dans le bégaiement, il y a des cas où on va avoir de ce qu'on appelle des mouvements associés. Donc, il y a beaucoup de tension qui est présente et la personne va faire des clignements d'yeux, mouvements de tête. Donc, ça, c'est un indice que la tension est plus importante. Donc, oui, ça peut être quelque chose qui est présent. Vous parliez de la respiration. Bien, c'est une manière que la tension peut se manifester. Donc, oui, aussi, au niveau de la respiration, on pourrait avoir une respiration qui est atypique.
Et bien sûr, il y a de nombreux impacts sur l'estime de l'enfant, sur son développement également.
Oui, ça peut être présent. En fait, souvent, ça va se voir quand l'enfant va vieillir et ça va être, c'est beaucoup étudié chez les adolescents et les adultes. Ce qu'on se rend compte, c'est quand ça persiste dans le temps, là, on a plus de risques d'avoir un impact sur l'estime de soi, sur la participation sociale, au niveau de l'anxiété. Là, on n'a qu'à penser en classe, là, aux travaux d'équipe, à se faire des amis, lever la main en classe. Là, ça va être là qu'on va avoir plus d'impact, mais c'est pas chez tout le monde. C'est vraiment pas toutes les personnes qui bégaient qui vont avoir ce type de difficulté-là.
Est-ce que les bégaiements sont liés aux troubles d'apprentissage?
Non, le bégaiement, en fait, présentement, on n'a pas de lien direct entre les deux. Donc, le bégaiement n'entraîne pas nécessairement de troubles d'apprentissage et l'inverse, sauf que la présence de bégaiement va faire en sorte que la participation en classe risque d'être réduite. Mm-hmm. Et donc, à ce moment-là, il pourrait y avoir un impact au niveau des apprentissages, mais on ne dit pas que c'est ce qui cause le trouble d'apprentissage.
Est-ce que ça touche davantage les garçons que les filles?
Oui, plus de garçons que de filles. En fait, on a 3 à 4 garçons pour une fille.
Est-ce qu'on sait pourquoi ça, Natacha? C'est quand même assez particulier.
Bien, en fait, on parlait tantôt qu'il y avait une question d'hérédité. Donc, dans la transmission, tout ce qui est lié à l'hérédité, aux gènes, on peut avoir des situations comme ça. Donc, vous avez qu'à penser à certains autres troubles. Il y a les troubles de langage, il y a les troubles envahissants du développement. Il y a plusieurs autres troubles où on a plus de garçons que de filles et probablement que c'est lié à la transmission génétique.
Mm-hmm. Vous disiez tout à l'heure, Natacha, que le bégaiement touche 5 % de la population. Donc, c'est quand même beaucoup, et oui, on connaît à peu près tous quelqu'un qui bégaye. Est-ce que ça peut se résorber complètement? Parce que oui, on connaît des adultes qui vivent avec ce trouble-là, donc j'aurais tendance à penser que ça se résorbe pas. Pourtant, en même temps, vous êtes orthophoniste, donc vous êtes là pour ça et pour traiter ces troubles-là.
Bien, en fait, il y a beaucoup de récupération naturelle. Hein? Les études qui sont faites présentement nous parlent d'un 65 à 80 % des cas où il va y avoir un arrêt du bégaiement dans les 5 ans suivant la transition. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc, on parle d'un bégaiement chronique plus autour de 25 % des personnes. Donc, les personnes adultes qui bégaient toujours font partie de cette tranche-là qui, je dirais, ont été malchanceux et avaient un bégaiement qui est devenu chronique. Mais chez les tout-petits, quand le bégaiement apparaît, il y a de très, très fortes chances que ça s'en aille.
Mm-hmm. Maintenant, bon, il faut s'armer de patience. C'est ce que je comprends aussi. Là, ça disparaît pas après quelques semaines.
Il y en a des cas que ça va être assez rapidement dans les quelques semaines, quelques mois, mais oui, ça peut prendre un certain temps. Cependant, il faut faire attention. Tantôt, vous parliez d'estime de soi. Il faut trouver l'équilibre parce que quand on laisse un trouble s'installer pendant un certain temps, ben l'enfant va peut-être avoir des réactions d'évitement pour pas se retrouver en situation là, problématique. Donc, je vous dirais, oui, on peut attendre, mais en orthophonie, on va dire, on a une fenêtre d'à peu près un 12 mois pour regarder l'évolution, voir vers où ça s'en va. À l'intérieur de ce 12 mois-là, si on voit que ça s'en va en diminuant, ben on est sur une bonne lancée. Si ça change pas, ça reste stable ou ça augmente, là, on va recommander vraiment d'avoir un suivi.
Mm-hmm. Est-ce que l'orthophoniste peut travailler en équipe avec un psychologue, par exemple?
Ça peut être quelque chose, mais je vous dirais que les études montrent pas que le bégaiement est d'origine psychologique. Mm-hmm. Et en fait, les interventions en psychologie n'auront souvent pas d'impact sur la diminution du bégaiement lui-même, donc au niveau de la parole, mais peuvent avoir une influence au niveau de l'anxiété ou au niveau de l'évitement. Donc, ça se peut qu'on fasse appel aux psychologues. Dans les centres de réadaptation, il y a souvent un psychologue dans l'équipe, mais c'est pas l'intervenant premier dans les cas de bégaiement.
C'est vraiment l'orthophoniste.
Ça va être plus en orthophonie, oui.
Mm-hmm. Maintenant, Natacha, est-ce qu'il y a différents degrés de bégaiement, à savoir léger ou plus grave?
Oui, en fait, quand vous faites une évaluation, habituellement, on va qualifier le bégaiement de léger, modéré ou sévère. Et le degré, à la base, je vous dirais, chez les tout-petits, n'est pas prédicteur de la suite. Donc, à l'apparition, le degré de sévérité n'est pas prédicteur de la suite. Plus le temps avance, et là, à ce moment-là, on sait qu'un bégaiement qui va être plus sévère après un certain temps, là, habituellement, le traitement ou la... En fait, les chances de disparition sont moins élevées et le traitement pourrait être plus difficile.
J'imagine qu'il n'est pas rare de voir plusieurs cas de bégaiement dans une même famille, si c'est héréditaire.
En effet, oui, c'est quelque chose qui est présent. Donc, moi, ça m'arrive en clinique là, d'avoir un enfant qui arrive, qu'on fait l'évaluation, et quand je parle avec les parents, ben, soit qu'un des parents bégaye ou qu'on me parle des grands-parents ou des oncles ou des tantes, en effet.
Donc, il est possible de faire des liens comme ça à travers la famille. Maintenant, encore une fois, Natacha, avec vous, je m'adresse aux parents qui nous écoutent. C'est quoi les attitudes à adopter lorsque l'on a un enfant à la maison qui bégaye? Peut-être les conseils pour mieux l'encadrer.
Habituellement, ce qu'on va faire, c'est recommander d'instaurer des bonnes règles d'hygiène de communication. Donc, c'est quelque chose d'assez générique, là, mais d'être à l'écoute de l'enfant, de faire des pauses pour lui laisser le temps de prendre son tour de parole, de se concentrer plus sur le contenu, donc ce qu'il est en train de nous dire, que sur sa manière de le dire, d'offrir un bon contact visuel, d'éviter les taquineries. Puis éviter les conseils qui aident pas, parce qu'on va avoir tendance face à quelqu'un qui bégaye de lui dire « prends ton temps, redis-le, respire avant de parler ». Chez les tout-petits, souvent, ils comprennent pas très bien qu'est-ce que ça veut dire. Tout ce qu'ils reçoivent comme message, c'est « oups, il y a quelque chose qui fonctionne pas avec ma parole, je sais pas trop quoi faire ». Donc, on va plutôt recommander de laisser de côté ces conseils-là et plutôt d'être vraiment à l'écoute là, au niveau de la parole.
Mm-hmm. Et bien sûr, on met au courant, on met au parfum la fratrie dans tout ça.
Oui, surtout s'il y a présence de taquinerie, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui peut faire en sorte que l'enfant pourrait décider de moins parler. Donc oui, on veut limiter ça.
Et à l'école, encore une fois, est-ce que vous avez pu observer dans votre pratique, justement, les enfants qui sont d'âge scolaire, est-ce qu'ils se font plus taquiner, vivent plus l'intimidation?
Ben, en fait, on a des études là, qui montrent que les enfants d'âge scolaire qui bégayent, oui, il y en a plusieurs qui vont vivre là, de l'intimidation ou des taquineries. Donc, il faut être à l'affût et réagir rapidement. Donc, quand on a un bon contact, qu'on met le professeur au courant, qu'on l'informe sur ce que c'est le bégaiement, ben, il peut y avoir une intervention faite en classe et à ce moment-là, ça aide beaucoup.
Et j'imagine que c'est important pour le parent de savoir ça, qu'il est possible de communiquer avec l'enseignant de son enfant et de mettre les cartes bien claires sur table.
Oui, et souvent, c'est justement, ça va faciliter au niveau de la participation en classe ou par rapport à des situations particulières. On parlait de présentation orale. Des fois, les profs peuvent faire certaines adaptations et beaucoup au niveau des pairs dans la classe. Donc, d'expliquer c'est quoi les différences et comment on traite quelqu'un qui est différent, pas seulement pour le bégaiement. Là, je vous dirais que ça va pour d'autres enfants dans la classe et souvent, ça va aider au niveau du climat de la classe.
Natacha, on ne s'empêche pas d'avoir de longues discussions avec notre enfant ou au contraire, il est préférable qu'il se repose et de préférer des discussions plus courtes?
Mais en fait, je vous dirais, on n'évite pas les discussions, mais on va peut-être s'adapter à la journée parce que le bégaiement est très variable souvent d'une journée à l'autre. Donc, il y a des bonnes et des mauvaises journées. Fait que quand c'est une bonne journée, ben, on y va peut-être davantage. Puis une moins bonne journée, ben, on forcera peut-être pas trop la parole cette journée-là. Mais on s'empêchera pas de communiquer avec l'enfant. Dans des conseils, souvent, on va dire aussi d'adapter notre niveau langagier. Donc, on prendra pas des phrases très, très longues, très, très complexes. On va peut-être donner le modèle de phrase un petit peu plus simple pour que l'enfant, lui aussi, quand il va parler, il prenne des phrases peut-être un petit peu plus simples pour faciliter la parole.
Oui, et qu'il ait accès à un vocabulaire plus simple, mais clair tout de même.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Donc, le bégaiement peut être associé au degré de fatigue de l'enfant.
Oui, souvent, les parents vont nous dire le soir, ils sont plus fatigués, on a plus de bégaiement. Quand c'est des événements particuliers aussi, là, pendant le temps des fêtes où les gens n'ont pas beaucoup dormi, souvent, on va voir une augmentation du bégaiement.
Maintenant, en terminant, Natacha, à quel moment consulter?
Mais en fait, ce qu'on va recommander, chez les tout-petits, si le bégaiement est présent depuis 6 à 12 mois, on va recommander de voir avec une orthophoniste si il y a lieu de s'inquiéter. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une prise en charge immédiate parce que dépendamment de l'évolution, il pourrait y avoir des décisions qui seront prises là, d'attendre de donner des conseils. Et si l'enfant a 4 ans et plus, là, on va vraiment recommander d'aller voir une orthophoniste. Et actuellement, il y a plus de chances que le traitement soit offert à ce moment-là parce qu'on sait que les chances que ça parte tout seul sont beaucoup moins importantes.
Oui. Et j'imagine, plus c'est pris vite, plus le trouble peut se résorber rapidement.
Oui, mais dans une certaine marge. En fait, je vous dirais que les études montrent que de commencer un traitement à 3 ans et demi ou de le commencer à 5 ans et demi, le traitement n'ira pas plus vite et on va avoir des résultats très, très semblables. Mais c'est certain que si on compare un enfant d'âge scolaire à un enfant d'âge préscolaire, on préfère faire le traitement à l'âge préscolaire et ainsi de suite. La même chose par rapport à un adolescent, par rapport à l'âge scolaire et etc.
Vous commencez par quoi lorsque vous recevez un enfant dans votre bureau, Natacha?
On va faire une évaluation. En fait, on va discuter avec les parents, faire ce qu'on appelle l'histoire de cas, aller chercher quels sont nos facteurs peut-être de risque chez cet enfant-là, vérifier est-ce qu'on a plus de chances que ça persiste ou pas, et faire vraiment une évaluation de la parole, bien sûr, par le jeu, là. Donc, l'enfant va jouer avec ses parents, va jouer avec l'orthophoniste, et ça va nous permettre d'aller chercher la parole puis d'identifier si on a vraiment les paramètres typiques du bégaiement.
Oui, et le nombre de séances est variable.
Oui, c'est variable. On a quand même des approches pour lesquelles on a des études qui nous montrent là, que chez un enfant d'âge préscolaire et début d'âge scolaire, on va parler d'un traitement en deux phases. La première phase qui est régulière, habituellement, c'est un 3 à 4 mois. Puis après, on a une phase de maintien pour s'assurer que ça perdure dans le temps. Et ça, c'est sur 1 an, mais c'est des rencontres qui s'espacent. C'est pas une fois par semaine.
Bien, merci pour toutes ces informations, Natacha Beausoleil. Je rappelle, vous êtes orthophoniste, propriétaire de la clinique Beausoleil Orthophonie et chargée de cours à l'Université de Montréal et l'Université Laval. Merci, au plaisir.
Merci, au revoir.
Au revoir.